La saga de la Maison de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vous fais découvrir chaque semaine des personnages qui ont fait la richesse de notre belle Savoie. Pour continuer cette découverte de la saga de la Maison de Savoie, après Philippe Ier, elle se poursuit par Amédée V le Grand, de 1285 à 1323. Il est né au château du Bourget le 5 septembre 1249. Il est le fils de Thomas II, comte de Maurienne et frère d'Amédée IV, et de Béatrice de Fieschi, venue des plus illustres familles de Gênes. Il est donc le second fils de la famille après Thomas III. En 1272, il épouse une princesse bourguignonne, Sibylle de Beaugé, et ajoute ainsi la Bresse, avec les riches cités de Bourg et Châtillon, à ses états. En 1285, il hérite de la couronne du comté de Savoie à la mort sans enfant de Philippe Ier. En effet, le seul enfant mâle d'Amédée IV, Boniface, étant mort sans lignage, la couronne revint à Pierre, son oncle. Après sa mort, également sans descendance mâle, la couronne passa sur la tête de Philippe, son autre oncle. 10 ans après son accession au trône de Savoie, Amédée V achète le château de Chambéry, complétant ainsi l'œuvre de son grand-père Thomas et fait de cette ville la véritable capitale du comté. Il arbore alors la croix de Savoie blanche sur fond rouge, inverse de la croix des croisés en souvenir du comte Amédée III. Il fait construire un pavillon de chasse à Ripaille, près de Thonon, héritant du problème du Faucigny, véritable épine dans ses états, née du mariage de sa tante Agnès avec le dauphin. Ce prince batailleur, lucide et politique, qui engage une guerre fort douloureuse et fort longue, durant laquelle il doit combattre une surprenante coalition du dauphin et du comte du Genevois. Amédée, soutenu par le roi de France Philippe IV, le Bel, fait reconnaître son autorité, mais ne peut récupérer le Faucigny. Il achète le château de Genève, mais réside le plus volontiers au Bourget. Comme tous les princes de son temps, il distribue des apanages, ce qui parfois s'avère néfaste à la maison mère. Il donne ainsi le pays de Vaud à son frère Louis, devenu Louis Ier, sire de Vaud. En 1282, à la mort de son frère Thomas, il confie le Piémont à son neveu Philippe, poursuivant ainsi le lignage des Savoies à Chailly. En 1295, le 6 du mois de février, il se rend possesseur du château de Chambéry et fait de la ville la capitale du comté de Savoie. Son épouse étant décédée en 1294, il se remarie 3 ans plus tard avec Marie de Brabant, devenant de ce fait le beau-frère de l'empereur Henri VII de Luxembourg. En 1303, il épouse Alix de Vienne, ce qui contribue à la paix entre la France et l'Angleterre. En 1313, il est fait prince de Saint-Empire romain germanique et reçoit la seigneurie d'Asti. Henri VII fait un vicaire impérial de ce foudre de guerre, qui a pris part à plus de 25 batailles rangées et soutenu 32 sièges. Protecteur des arts, il meurt en Avignon, le 16 octobre 1323, à 74 ans. Son corps est ramené dans l'abbaye de Hautecombe, Sénatoff. Et l'histoire se poursuit avec Édouard Ier, dit le libéral, de 1284 à 1329. Édouard Ier est né à Bauges le 8 décembre 1284. Il est le fils aîné du comte Amédée V et de Sibylle de Beaugé. En 1307, il épouse Blanche de Bourgogne, fille du duc Robert II de Bourgogne et belle-sœur des rois Louis X et Philippe VI. À la bataille de Mont-Saint-Pevel, il délivre Philippe le Bel en étrillant les Flamands, ce qui lui vaut à 20 ans d'être armé chevalier sur le Pré. En 1323, il devient le 15e comte de Savoie à la mort de son père. En 1561, à propos du comte Édouard, le chroniqueur Paradin écrit « Celui-ci était de grand corps, puissant et allègre, fort adroit et dextre aux armes, desquelles il aimait autant l'usage que point de ses prédécesseurs. Il était tant libéral qu'il passait les limites de la raison et tournait son gouvernement en prodigalité sans mesure, tellement que souvent s'en trouvait en arrière, car la dépense excédait son revenu et ne pouvait faire état de son bien, car il était dépensé et mangé en herbe avant qu'il fût en gerbe. et avant qu'il fût dû, à raison de quoi se faisait souvent sur le peuple exaction et concussion, pour la prodigalité et profusion du prince qui donnait et dépensait plus qu'il n'avait vaillant, mais ce n'est pas libéralité que doter aux uns pour donner aux autres. Rien de bien original, en somme, en ce sens que le bon peuple est toujours celui qui paye les frasques ou les bontés des grands. Surnommé, en effet, le libéral, car il dépense aisément, disent certains, ou parce qu'il accorde des chartes de franchise aux villes, ce qui semble plus réel, il est vaincu par le dauphin au Varais, où périssaient les meilleurs chevaliers savoyards. Malgré tout, on lui doit un conseil résident. En 1327, ayant aidé l'évêque de Maurienne, Aymon de Mieulan, contre une jacquerie de paysans, il récupère les pouvoirs temporels de ce dernier et devient le véritable seigneur de la vallée de l'Arc. N'ayant qu'une fille, mariée au duc de Bretagne, il laisse sa succession au trône à son cadet, Aymon. Il meurt le 4 novembre 1329 en son château de Gentilly, en Île-de-France. Le roi de France, dont il est l'ami et l'allié, ordonne d'impressionnantes funérailles à Notre-Dame de Paris. Son corps est ramené en Savoie, inhumé à l'abbaye de Hautecombe, et il ne nous reste aujourd'hui qu'un cénotaphe. Son épouse, elle, décède en 1348. Puis, c'est au tour de Aymon le Pacifique, de 1291 à 1343. Il est le second fils d'Amédée V et de Sibylle de Beaugé. Il naît le 15 décembre 1291 à Bourg. En 1329, il succède au trône de Savoie, à la mort de son frère aîné, Édouard Ier, décédé sans enfant mâle. Ce 16e comte fait construire l'année suivante un château au nord de l'abbaye de Hautecombe, qu'il affectionne tout particulièrement, et épouse à Casals Yolande, paléologue de Montferrat, qui apporte en dot le Val Lanzo. Il crée la charge de chancelier de Savoie. À Hautecombe, il fait construire la chapelle des princes et fait regrouper 27 défunts de la maison de Savoie, inhumés jusqu'alors dans le cloître ou le cimetière. Il aide l'évêque de Moutier à mater une rébellion de ses ouailles et en contrepartie de son aide, il le dépouille de ses pouvoirs temporels, devenant ainsi le véritable seigneur de la Tarentaise, comme avait pu le faire son frère pour la Maurienne. Il doit son surnom de Pacifique aux réconciliations qu'il réussit avec Genève et le Dauphin. Sa femme décède au château d'Hautecombe le 23 décembre 1342 en mettant au monde un enfant mort-né, prénommé Louis. Si elle est inhumée dans la chapelle des princes d'Hautecombe, il faut dire que le château, endeuillé par ce drame, est par la suite abandonné par les comtes et tombe en ruine. Inconsolable, il meurt quelques mois plus tard, le 22 juin 1343, laissant le pouvoir à son fils Amédée VI, alors âgé de 9 ans. Il repose aux côtés de sa femme, et il est à noter que ses sépultures ayant été détruites sous la Révolution, elles ont été reconstituées grâce à des dessins de Guichenon. Cette chronique est tirée d'un livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, écrivain et historien savoyard. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et surtout, à une prochaine fois.